Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la manière dont les concepteurs des projets urbains intègrent l'enjeu de préservation des ressources, qu'elles soient patrimoniales ou naturelles. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le cofondateur de l'agence Enya Architectes, Brice Piechazik. Bonjour Brice.
Bonjour Fanny.
Je suis enchantée de discuter un petit peu avec vous autour de ces sujets. Merci d'avoir accepté cet échange.
Merci.
Alors, pour commencer, on peut revenir quelques instants sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être un peu nous raconter comment vous avez créé l'agence Enya avec les deux autres cofondateurs? Quel était le moteur? Quelle était l'ambition? C'est quoi l'étincelle qui a permis cette belle aventure?
Alors, on peut raconter plein de choses. La première étincelle, c'est d'abord une histoire d'amitié. Mathieu et Simon, on s'est rencontrés en école d'architecte. On avait tous les trois un parcours avant. Mathieu et moi avions fait des études d'ingénieur. On exerçait d'ailleurs l'ingénierie pendant nos études d'architecture. Simon, lui, a une formation d'ébéniste. Il avait exercé l'ébénisterie et on s'est retrouvés en école d'architecture tous les trois. On s'est liés d'amitié, mais au-delà de l'amitié, on a travaillé ensemble sur du projet en école d'architecture. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une véritable complicité, au-delà de l'amitié, une complicité intellectuelle qui nous permettait d'envisager ensemble un avenir commun. Et on a décidé à cette époque-là de monter notre agence ensemble dans les prochaines années sans se fixer de date. On a continué nos études d'architecture, on les a finies, ça a pris un peu de temps. À l'époque, il était possible en fait de passer son diplôme quelques années après les études. Et notre diplôme en poche, on a décidé de franchir le pas, c'est-à-dire de monter ensemble une agence d'architecture qui est donc Enya. Et ça fait 20 ans.
Ça fait 20 ans, ouais. D'accord. Et... comment vous avez commencé à travailler sur... Est-ce que c'était un projet qui vous a mis le pied à l'étrier ou est-ce que vraiment vous êtes dit à un moment donné, bon, allez, on y va, c'est le moment, comment vous avez fait?
On a eu énormément de chance parce qu'on s'est à la fois dit on y va et en même temps on a eu accès à la commande tout de suite.
Ça, c'est les planètes qui s'alignent.
Voilà, les planètes qui s'alignent. Et ce qui est assez intéressant dans l'histoire de l'agence, c'est que, alors, parce qu'on était ingénieur et architecte, notre première commande a été une commande assez technique. C'était un data center, en fait, notre première commande il y a 20 ans. Et quelques mois plus tard, on a été retenu à concourir pour construire deux bâtiments publics, un bâtiment de recherche pour l'université de Cherbourg-Octeville et une église. Au Lila, en Seine-Saint-Denis, lancé en marché public, je serais trop long si on détaille, mais c'est partie des très rares églises qui ont été lancées en marché public parce qu'il y avait une église qui était propriété de la commune qui tombait en ruine, qui n'était pas réhabilitable. Et donc, on s'est trouvé, en fait, dès le démarrage, avoir une agence un petit peu polycéphale avec des bâtiments très techniques, des bâtiments plutôt culturels, des bâtiments publics. Et l'agence s'est enclenchée comme ça avec une énorme diversité de clients qu'on a continué à développer pendant ces 20 dernières années. Et qui aujourd'hui traduit un petit peu l'activité de l'agence où on travaille dans le monde entier, dans toute la France, sur des domaines aussi variés que les bâtiments de transport, les bâtiments culturels, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments techniques, les bâtiments liés à l'énergie, etc.
Voilà. Ouais,
donc tout ça s'est enclenché finalement avec une sorte de petite matrice initiale qui finalement annonçait ce qu'allait se passer à l'agence. C'était une sorte de grande diversification qui était aussi lié à notre curiosité intellectuelle, c'est que si on a décidé d'embrasser cette profession, c'est pour des questions finalement assez cérébrales, c'est que ce métier, selon nous, est au cœur des transformations du monde.
Et oui, on va y revenir tout à l'heure, mais
c'était pour nous important qu'on puisse toucher en fait à tous ces domaines d'activité pour être complet dans notre vocation.
Et du coup, vous avez également développé un pôle recherche. Alors, depuis quand et quels sont les attendus? Qu'est-ce que vous attendez de ce pôle recherche et quel sujet vous développez?
Très, très tôt à l'agence, parce que justement, on avait accès à ces commandes très diversifiées qui touchaient des problématiques presque civilisationnelles, hein, qu'on parlait d'énergie, on parlait de numérisation des pratiques, voilà, de data center, etc. On parlait même de laïcité quand on construit une église en marché public. Dès le début, on s'est dit, il faut qu'on puisse compléter notre pratique quotidienne par un travail un peu plus profond de recherche, d'exploration, ce que le projet ne nous permet pas de faire dans son temps très court. qu'on puisse avoir la possibilité de travailler dessus. On a commencé sur les data centers. Data centers, on s'est dit, est-ce bien raisonnable de construire ces grosses galettes qui viennent consommer du foncier? On s'est dit, ce serait peut-être pas idiot de réfléchir à un dispositif vertical qui économiserait le foncier et qui aurait finalement les mêmes caractéristiques. Donc là, premier projet de recherche, ça, 2006-2007, donc l'agence, elle a 3 à 4 ans à l'époque, elle est très jeune.
Et là, l'enjeu pour le pôle, c'est de développer le concept, en fait. Dissocier du projet ou
dissocier du projet, d'accord. On travaille sur un concept, ce qui est de la recherche appliquée, théorique, mais quand même avec un caractère applicatif qui est directement envisagé derrière. Ça a donné lieu à un projet qu'on a construit, ce premier projet de recherche. Et depuis, on a eu de cesse, comme ça, d'explorer des champs que le projet ne nous permettait pas d'explorer, mais le projet nous sert à déceler, à faire émerger des questionnements, et notre pôle de recherche nous permet d'y répondre partiellement derrière. Alors après, la recherche, elle a vachement évolué au sein de l'agence. Elle a maturé, elle a grossi. Aujourd'hui, on a deux personnes qui travaillent exclusivement dans ce pôle au sein de l'agence. Il y a Claire Bach qui travaille sur le sujet, Medjid Meizia qui est professeur des universités qui travaille activement dessus, et puis plein d'architectes au sein de l'agence en fait qui viennent agglomérer cette équipe. Donc ça a donné lieu à des dépôts de brevets, ça a donné lieu à des recherches théoriques, ça a donné lieu à des recherches pratiques, dont certaines sont mises en application sur des projets qui arrivent généralement 2-3 ans derrière, et d'autres qui sont restés pour l'instant rangés dans un placard, mais qui ressortiront à un moment où on pense que ce sera le bon moment de les ressortir.
Le sujet d'actualité là, le plus actuel, c'est quoi du pôle?
Le sujet le plus actif en ce moment, c'est une question de métrique de carbone pour imaginer les scénarios du futur du quartier de la Défense et voir quel va être finalement l'impact carbone du scénario qui sera choisi ou qui sera pas choisi pour le développement du quartier de la Défense, et regarder si finalement ce quartier va pouvoir répondre aux promesses qui sont faites d'un nouveau quartier post-carbone vert. Donc, tout ça, c'est pas mal de maths, pas mal de sciences, pour regarder finalement quel est l'impact de la restructuration d'une tour, quel est l'impact de la construction d'une nouvelle tour, quel est l'impact du changement d'usage.
Donc c'est une modélisation d'un logiciel
C'est un outil qui nous permet de scénariser le futur de la Défense, donc à échéance 10-20 ans, et regarder quel est l'impact carbone de ces transformations. On a trois sujets de recherche majeurs. Il y a un premier sujet qui concerne ces questions de métrique, sur l'objectivation. C'est qu'en fait, on vit dans un monde, et en particulier en France, où en fait, ce sont les normes qui nous dirigent beaucoup, et les normes nous donnent beaucoup des obligations de moyens. Et finalement, on a tendance à s'éloigner des obligations de résultats. Nous, ça nous intéresse beaucoup de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire, construire comme ça? Donc, c'est l'objectivation, c'est la métrique. Un deuxième sujet qui concerne plutôt les nouvelles méthodes de construction. On travaille beaucoup sur des sujets de hors-site, sur des questions de standardisation, voir comment il est possible de construire mieux tant en termes de qualité constructive qu'en termes d'émissions carbone. Donc, c'est une nouvelle méthode. Et le troisième sujet, c'est plutôt sur la transformation du bâti existant, et sur la réflexion sur les nouveaux usages au sein des bâtiments. On a un peu ces trois polarités, d'accord, de recherche, l'objectivation, construire autrement, et la transformation. Et c'est ces trois grands thèmes en fait qui activent équipes de recherche. Enfin,
en tout cas, les sujets dont vous vous saisissez, quoi. Alors, avant de plonger dans le sujet de la sobriété des ressources, qui est la vocation de ce podcast, je souhaiterais avoir votre point de vue sur la place de l'architecte dans le projet politique de la ville. Vous l'avez évoqué tout à l'heure un tout petit peu en parlant de vision. Est-ce que l'architecte doit jouer un rôle dans le projet politique? Et si oui, de quelle manière ça se traduit?
Alors qu'il le veuille ou non, l'architecte, il joue un rôle dans n'importe quel projet politique. La meilleure preuve, elle n'est pas l'absurde, c'est quand on regarde quel est le pouvoir de nuisance de l'architecte. Voilà, le pouvoir de nuisance de l'architecte, on s'aperçoit bien du coup que son rôle, il est fondamentalement politique. Ça, c'est pas nouveau, hein. Ça remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hippodamos de Milet, quand il travaille sur le plan de Milet, justement, c'est un projet politique à laquelle il y a une réponse formelle. Donc là, on parle de morphologie urbaine, il y a une réponse formelle à un projet politique. Et toute l'histoire de la ville montre que l'architecte a toujours un rôle politique, mais qui est par contre vraiment au sens noble du terme, c'est pas un rôle politicien. Parce qu'il est finalement un des acteurs majeurs de la fabrication de l'espace, qu'il décide en lien avec les acteurs politiques et qui vont être proposés, voire imposés à des gens qui vont y vivre sans avoir forcément choisi ce lieu. Donc, l'architecte, en fait, a besoin de se projeter une sorte d'empathie intrinsèque dans ce qu'elle va être le besoin, quelle va être la perception en fait des gens qui vont venir s'implanter ou vivre dans les espaces que l'architecte aura bâti. Donc en ça, déjà, c'est un projet politique. C'est qu'il choisit pour des autres, en fait, l'espace dans lequel les gens vont vivre. Le deuxième sujet, et ça, c'est depuis, on va dire, les années 2000, en fait, qu'on s'est aperçu qu'il y avait besoin de prendre en considération ces grandes mutations climatiques au sein de notre manière de faire. Et là, l'architecte, il a également un rôle inouï à jouer. C'est un prescripteur. Donc c'est non seulement il dit quoi construire, mais il dit comment le construire aussi, et ce comment le construire est devenu un des éléments majeurs au sein de notre métier. En ça, l'architecte a aussi un rôle politique, c'est que sa posture sur le comment faire, au-delà du quoi faire, devient très importante, a un impact également très fort sur la soutenabilité des mutations urbaines.
Alors, donc du coup, sur le quoi faire, comment ça se traduit aujourd'hui dans vos relations avec les collectivités locales, les élus? Puisqu'effectivement, l'architecte, il a un rôle politique, mais est-ce que c'est un rôle de soutien, d'accompagnement, de formalisation du projet politique porté évidemment par les élus, ou est-ce que vous pouvez être même un petit peu en amont, c'est-à-dire souffleur, je ne sais pas comment dire, du projet politique? Voilà, comment ça se traduit concrètement aujourd'hui? Quelles sont vos relations avec les maires? Quel est votre rôle auprès des maires, concrètement?
Elles sont globalement excellentes. Pourquoi elles sont excellentes? C'est que le projet, et notamment le projet moderne d'architecture, on considère qu'on est encore dans cette période moderne qui date du début du XXe siècle, c'est le lieu de débat. C'est un lieu de débat dans lequel viennent se poser des visions techniques, viennent s'intégrer des visions sociales, viennent s'intégrer désormais des visions environnementales, et le projet devient un lieu de débat. Et c'est finalement assez proche du métier d'un maire qui finalement passe sa vie à faire du débat quand il gère sa collectivité. Donc on se ressemble assez avec les élus. Et on s'en est aperçu, c'est que très rapidement on finit par comprendre en fait quelles sont les problématiques d'un élu. Et les élus comprennent assez bien quelles sont nos problématiques. Donc il y a une sorte de complicité assez naturelle qui se fait, qui s'établit sur tous nos projets, je dois dire, en fait, sur tous nos projets, on a réussi à bâtir des relations assez assez intimes avec les élus avec qui on a travaillé, même quand on travaillait pas directement pour eux, quand on venait présenter un projet complètement privé au sein d'une collectivité locale, on sent immédiatement la collectivité, la connivence, la complicité qui s'établit. Peut-être parce qu'on vise une chose qui est assez commune, qui est celle de l'intérêt général. Simplement, si la profession d'architecte est protégée en France, c'est parce qu'elle commence dans la loi de 77 par l'architecture et l'intérêt public. Et c'est en ça qu'on a une profession qui est protégée. C'est pareil pour le maire. Donc ça s'établit. Donc cette complicité, bien sûr, elle existe tout au long de l'élaboration du projet, mais elle existe également en amont. Quand, un peu en tant que visiteur du soir, un élu qui est un peu paumé dans ses prises de décision, c'est compliqué d'être maire, hein, c'est très compliqué. Que ce soit une petite commune ou une grande commune, c'est très compliqué. Et là, notamment, le travail de recherche qu'on fait sur les sujets d'objectivation, de métriques, nous permet aussi de conseiller des élus de manière assez officieuse, finalement, sur les stratégies, les bonnes stratégies à prendre ou les stratégies à ne pas prendre, mais on est beaucoup moins directif que ça. Ce qui nous intéresse, c'est donner à des élus éclairés sur les décisions à prendre. Et ça, c'est finalement pas quelque chose de si commun dans les collectivités. Il y a des collectivités qui sont très staffées avec des équipes techniques. Il y en a plein qui le sont pas. Et donc cette relation, elle s'établit aussi en amont des projets, parce que on vise finalement la même chose.
Alors, donc là, on a parlé du projet politique de la ville, ou en tout cas du projet de territoire, etc. Est-ce que la dimension politique de l'architecte, elle est aussi sur une dimension militante? Est-ce que au sein de ENIA, vous avez des fois des arbitrages plus militants, c'est-à-dire ce projet, on va y aller même si c'est moins rentable, ou au contraire, ce projet, on n'y va pas, y compris si c'est extrêmement rentable, parce qu'il y a des valeurs dans lesquelles on se reconnaît pas, etc. Jusqu'où ce militantisme, si j'ose dire, se déploie?
Il s'avère qu'à l'agence, on a réussi à bâtir en fait un vrai dialogue aussi au sein des équipes. Et je vous cache pas que ça parle politique en permanence à l'agence, entre tout le monde. Alors les gens sont pas forcément tous d'accord, etc. Mais en tout cas, il y a débat. Au même titre qu'il y a débat sur le projet. Donc oui, le sujet politique est au cœur de notre quotidien. Et ensuite, bien évidemment, pour les raisons que je vous expliquais, les raisons pour lesquelles même on avait choisi ce métier, on se pose en permanence des questions sur est-ce qu'on va sur ce projet ? C'est pas tellement le projet, c'est est-ce qu'on va sur ce projet et on regarde toujours les finalités du projet plus que le projet, on regarde les finalités du projet plus que le contexte politique dans lequel il s'inscrit.
L'impact.
Donc voilà, c'est un impact et ça rejoint un petit peu les raisons pour lesquelles on a embrassé cette profession et cette vocation. C'est une question de contribution. En fait, on a envie de contribuer à, on va dire, la vie politique au sens norme, enfin, en proposant en fait les projets sur lesquels on travaille. À ce titre, un projet sur lequel on va contribuer en rien, dont les finalités nous semblent pas intéressantes, avec un donneur d'ordre qui nous semble être aux antipodes de nos convictions politiques personnelles, c'est bien évidemment un projet sur lequel on n'ira pas.
Est-ce que c'est une spécificité ENIA ou est-ce que tous les architectes, toutes les agences d'architecture fonctionnent peu ou prou de la même manière ?
Alors moi, je pense que tous les architectes se posent la question. Après, il y a aussi des architectes qui peuvent pas se permettre en fait de faire ces choix. Hein. La profession, elle est ce qu'elle est. Elle s'est paupérisée au fil des années. Je pense qu'il y a pas mal de confrères qui n'ont pas le choix. Nous, on a la chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels on travaille et de les faire avec pour pouvoir les mener avec enthousiasme. Mais notre vocation d'architecte, on peut pas la dissocier de la question du plaisir d'y travailler. Et à un moment, si on s'aperçoit qu'un projet ne nous donnera pas du plaisir à cause de son contexte politique, économique, environnemental, enfin tout ce qu'on veut, ces projets dans lesquels on va pas parce qu'on veut pas, voilà, c'est notre bonheur, notre profession d'architecte, donc on veut que ça reste un profond plaisir.
Donc un vrai engagement, en fait.
C'est un vrai engagement, et je pense que tout architecte se pose cette question. Mais bon, après, je pense qu'on peut toujours finir cynique en fin de carrière, j'espère qu'on le deviendra jamais.
On va donc essayer d'aborder un peu la question de la sobriété foncière. Quand on parle de sobriété foncière, on est évidemment obligé d'aborder la question de la densité. Cette question, elle est compliquée, elle est délicate, elle suscite de nombreuses réticences à la fois de la part des élus, mais aussi des citoyens. Comment vous appréhendez cette question ? Est-ce qu'il y a des clés un petit peu de réussite pour réaliser de la densité urbaine ? Est-ce que vous pouvez nous illustrer ça par quelques peut-être projets que vous avez menés ?
Cette question de la densité, c'est toujours important de resituer la période dans laquelle on est à l'aune de l'histoire de la discipline. C'est que depuis la fin du 19e avec l'apparition des cités-jardins, puis le mouvement moderne avec la ville qui finalement n'occupe plus le sol, libère le sol. Ça fait bientôt un siècle qu'on travaille sur la question de la dédensification de l'urbain et le plaisir finalement de s'éloigner les uns des autres. Donc c'est quand même très ancré. Enfin, tous nos lotissements se sont construits finalement à la lumière de ces théories sur la ville qui se distend et qui permet de procurer le bonheur individuel. Plutôt que laisser les gens s'entasser les uns sur les autres. Ça va prendre du temps pour rendre la densité désirable. Qu'il faut vraiment fabriquer un nouveau modèle qui permette d'être suffisamment attirant parce qu'on ne réussira pas à densifier la ville au forceps. Voilà. Ça posera d'énormes problèmes pour le coup politique. Donc il va falloir prendre du temps. On a là-dessus, nous architectes, une grande responsabilité parce qu'on se doit de trouver les modèles qui soient adaptés et de trouver une méthode pour les communiquer pour que les gens puissent se projeter dans une ville désirable, dense. C'est génial pour nous, architectes urbanistes, parce que ça veut dire que c'est par le projet on va réussir à convaincre, et là, plus un client à mettre d'ouvrage, mais à convaincre la population qu'il est possible de vivre dans un nouveau modèle de ville, qui est la ville telle qu'elle est aujourd'hui, redensifiée. Il y a à ce titre une très belle exposition qui est pas exactement sur ce sujet-là, mais qui est à l'Arsenal en ce moment sur la question qui s'appelle énergie légère, qui a été dont le commissaire est Raphaël Ménard, qui est le président d'AREP, et qui propose des visions de ce que pourrait être la ville demain sobre.
L'AREP a développé aussi une vision sur justement le seuil de densité. Enfin, en tout cas,
AREP est très en avance sur ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le projet architectural peut devenir un facteur ou un média de désirabilité de la ville, c'est pour que les gens puissent se projeter dans ce que pourrait être la ville demain. Et la ville dense, c'est pas forcément une ville engluée dans les fumées, dans le bruit des voisins, etc. C'est pas forcément ça. C'est aussi un sujet d'architecture dans lequel la place de l'individu pourrait continuer à exister, mais avec des champs de collectif, finalement, dans la fabrication de la ville, qui puissent être choisis par chacun. Donc, je pense que la ville dense, elle a cette capacité de pouvoir proposer une multitude de situations dans la relation d'un individu à l'autre, ce que ne permet pas finalement la ville distendue. La ville distendue, vous êtes tout seul dans votre pavillon, dans votre jardin, vous êtes tout seul. Et en fait, la relation que vous avez avec votre voisin, c'est par-dessus la tuya ou dire « Oh, est-ce que tu peux me prêter ton taille-huet ?» Mais c'est juste ça, le collectif. La ville dense, si elle permet de conserver la sphère individuelle, mais permet de proposer aussi des situations collectives, petite échelle, moyenne échelle et grande échelle à la taille de la ville, elle peut proposer finalement quelque chose que ne propose pas la ville dense traditionnelle, celle d'Haussmann ou celle du 19e, et que ne propose pas non plus la ville distendue des post-années 60. Donc si la ville dense permet de proposer quelque chose de neuf, que les différents modèles de l'histoire n'ont jamais réussi à proposer, là on tient quelque chose, c'est qu'en fait tout d'un coup, on a une nouvelle projection possible sur cette ville dense, qui permet tout simplement d'imaginer un avenir radieux sur cette ville densifiée.
Mais comment ça se traduit? J'ai du mal à me projeter.
Très très concrète, on construit une petite opération de logement à Bagnolet, là, dont le chantier va démarrer dans quelques semaines. Bah, c'est une opération dans laquelle chaque appartement a déjà son espace extérieur individuel. Donc là, on est dans la bulle individuelle. Mais déjà, l'espace extérieur permet de fabriquer une relation au moins visuelle, voire auditive avec le reste de la ville. Donc ça, c'est la première échelle. Et une deuxième échelle qui est celle de la cage d'escalier. La cage d'escalier, si on réussit à faire en sorte qu'il n'y ait pas 45 appartements par cage d'escalier, mais plutôt une petite dizaine, ben là, tout d'un coup, il y a un collectif qui peut se fabriquer à l'échelle de 10 appartements. Ensuite, on change d'échelle. Il y a l'espace extérieur partagé. Là, sur notre opération, on a un jardin qui va concerner une trentaine d'habitants, une trentaine de foyers, qui ont un jardin pour eux, dans lequel ils vont pouvoir travailler à une échelle collective un peu plus grande que celle de la cage d'escalier. Et ensuite, il y a la relation au quartier, et la manière dont ce projet, en fait, se raconte au quartier avec ses différents accès, etc., fabrique la troisième échelle. Et en fait, dans cette résidence, chaque habitant va pouvoir vivre, en tout cas habiter au sens presque philosophique du terme, de la manière qui lui convient le mieux. Et ça, c'est important, c'est ce que la ville dense peut proposer, et ce que la ville non dense ne peut pas proposer. Donc cette diversité, finalement, dans son rapport à l'autre, je pense que c'est une grande richesse, et j'aimerais qu'on continue, nous, à travailler sur des projets qui permettent de proposer ça. On a une autre opération à Marseille qui fonctionne en ce moment, qui est en chantier pour lequel, une petite opération de logement, qui fonctionne exactement de la même façon, avec les espaces extérieurs individualisés, la terrasse sur le toit collectif qui est réservée à la cage d'escalier et le jardin à l'intérieur qui est réservé à l'ensemble de la résidence. Et on a toutes ces micro-sociétés qui sont capables de s'imbriquer un petit peu comme des poupées russes et qui donnent tout simplement à l'habitant le choix de fabriquer la vie, de vivre la ville un petit peu comme il l'entend.
Effectivement. Est-ce que la structure, j'arrive pas très bien à me projeter, parce qu'est-ce que la structure, la manière dont on conçoit l'espace et le vide et le plein, etc., peut influencer les comportements humains? Le logement jusqu'à présent et le pavillon en est certainement l'emblème. C'est un refuge, en fait. C'est un refuge pour les gens. C'est l'intime. C'est justement l'endroit où on n'a pas envie d'être vu, où on peut se détendre complètement, être en sécurité. Enfin, il me semble que c'est ces valeurs-là qui sont portées dans le logement aujourd'hui. Et que, du coup, la densité, aujourd'hui, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, elle est subie. En tout cas, quelqu'un qui a le choix va forcément aller se cacher dans son logement intime pour pouvoir être détendu le plus possible. Est-ce que, du coup, enfin, ce que vous proposez là, qui est extrêmement intéressant, n'implique pas quand même un cheminement d'abord individuel vers une nouvelle forme finalement de relation à l'autre, avant même que l'architecture puisse accompagner ce mouvement? Je ne sais pas si je suis claire.
C'est très clair. C'est vrai que ça fait à peu près 30 ans qu'on vit dans une ère, en fait, qui est celle de l'individualisation à tout prix, en fait, où les gens, en fait, ont besoin, en fait, de réfléchir à leur bien-être, à eux d'abord. Et en fait, il suffit de regarder n'importe quelle pub qui raconte « connais-toi toi-même, sois toi-même, sois toi-même ». Tout ça, en fait, tend à tendre vers une vision extrêmement individuelle voire individualiste de la ville. Pour autant, je suis absolument persuadé que des dispositions architecturales permettent de fabriquer une nouvelle forme de lien social. Un exemple très très simple, l'opération qu'on fait à Marseille en ce moment. L'ensemble des paliers ont été surdimensionnés. Au lieu de faire 3 mètres carrés, des paliers dans lesquels il y a 2 voire 3 appartements font 30 mètres carrés. C'est énorme, 30 mètres carrés, et éclairé naturellement. Et bien, tout d'un coup, en fait, on propose un espace dans lequel, naturellement, les gens vont avoir envie de s'y poser, de discuter, voire de s'engueuler. Mais c'est pas grave. Donc, et en fait, il y a un espace qui existe, en fait, qui permet la relation. Mmh. Et l'homme est un animal social. Donc, à partir du moment où ces espaces existent et sont proposés, le lien se fabrique. L'opération, de la même façon qu'on va construire à Bagnolet, nous avons décidé que l'accès à cette résidence, ce sera un accès unique. Que ce soit pour accéder aux maisons individuelles, au logement social ou au duplex avec terrasse, on accède dans l'espace par un accès unique. Et donc tout le monde est obligé de se croiser. Donc les gens vont être mis en condition, grâce à l'architecture, de se rencontrer et d'échanger. Ben, ils le veulent ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, justement, c'est de pouvoir proposer des logements dans lesquels les gens vont pouvoir continuer à vivre tout seuls s'ils ont envie de ne pas discuter avec les gens. Par contre, je pense qu'on est coupable, nous architectes, nous programmistes et nous maîtres d'ouvrage, on va dire nous constructeurs au sens très large, si on ne propose pas les endroits dans lesquels les gens sont capables de s'aimer.
Est-ce que vous avez mis en place des moyens pour mesurer un peu justement l'impact de ce que vous proposez là?
Très 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 difficile. Donc c'est bien sûr complètement empirique tout ce que je raconte. Par contre, c'est évidemment une grille de lecture et d'analyse des projets qu'on réalise.
D'accord. Donc en plus d'être politique, en plus d'être militant, l'architecte crée une autre forme de réalité.
Alors ça, c'est effectivement, si nos projets se contenaient à des images et à des plans, ce serait un peu triste. Heureusement, on finit par construire les bâtiments qu'on dessine, et donc on fabrique une réalité, on fabrique un univers, qu'on le veuille ou non, en fait, on fabrique un univers. Donc je pense que c'est très important, et je pense que c'est quelque chose qui a bien diffusé au sein de notre agence, au sein de notre équipe, c'est que tout le monde a conscience que ce qu'on fait est pas neutre. En fait, va avoir une influence sur la manière dont les gens se comportent. C'est vrai pour le logement, mais c'est également vrai pour un lieu de travail. Un lieu de travail, en fait, je pense qu'un architecte est capable de fabriquer un lieu dans lequel l'ambiance sociale pourra être plus propice au rassemblement, à la vie informelle de l'entreprise. Et en même temps, un architecte qui se plante un petit peu sur son projet peut fabriquer des situations sociales un petit peu délétères. Nous-mêmes, on a fait des erreurs au début de l'agence. On a construit, il y a bientôt 20 ans, en fait, des bâtiments de bureaux dans lesquels on aurait pu mieux faire sur les espaces collectifs de rencontres, sur la manière de percevoir son lieu de travail, etc. Et ça a été un de nos sujets de recherche à l'agence, d'ailleurs, dans les années 2010-2012. C'est de réfléchir, en fait, à un système de mobilier qui permettrait aux utilisateurs d'un immeuble de bureau de se sentir plus à l'aise, de pouvoir maîtriser plus aisément ses conditions de confort, le son, la lumière, la température. On le fait tous dans notre voiture, on le fait tous dans l'avion, on le fait tous dans le train. Et par contre, quand on est au bureau, en fait, c'est Gérard, le chef des moyens généraux, qui décide s'il fera 19 degrés, 20 degrés. C'est un truc assez bizarre. Voilà. Donc on a, en tout cas, je pense que cette relation à l'individu, c'est un moteur permanent dans la conception de tous nos projets. Et on s'aperçoit que même quand on travaille sur un projet d'aéroport, la manière dont on va accompagner le stress du passager, parce que tout le monde stresse quand on prend l'avion, c'est plus de 75% des gens qui ont une appréhension avant de monter dans l'avion. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce stress? Eh ben, voilà. On pense qu'on a une responsabilité, c'est de travailler sur un type d'espace qui va rendre les gens un peu plus détendus avant de monter dans l'agence. Enfin, voilà, c'est un peu un cadeau qu'on fait, et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce métier d'architecte.
Oui, donc vous intégrez toutes les notions d'usage désormais, enfin en tout cas de maîtrise d'usage, tout ce qui se développe aujourd'hui autour de... On revient quand même aux besoins réels des gens, à leurs usages réels, à leur mode de vie, et on essaie quand même de transformer un peu les choses par rapport à ça, à partir de ça en tout cas.
C'est ça, avec des essais-erreurs, parce que c'est marrant, parce que je regardais il y a deux jours... une comédie musicale, si je me trompe pas, c'était avec une composition musicale de Tchostakovitch, qui en fait racontait le bonheur de vivre dans un grand ensemble dans les années 60, donc en pleine période soviétique, avec les gens qui exprimaient leur bonheur en fait de rentrer dans ces magnifiques appartements, etc. Donc, il a globalement pas été en fait un succès si on regarde tout ça sur le temps long. Donc on va faire des erreurs, ça on sait, mais ça c'est l'histoire de la ville. On a fait des erreurs
De l'humain, voilà. De l'être humain, de manière générale. Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être effectivement essayer de voir comment vous mettez en place dans vos modes de produire, dans vos conceptions, dans vos concepts, la question de la préservation des ressources. Donc, il faut répondre aux besoins de la ville en matière de logement, en matière d'activité, de logistique, de numérique. Et maintenant, on a ce défi majeur de faire tout ça tout en préservant des ressources, que ce soit du sol ou des ressources patrimoniales comme le bâti. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à travers des projets, alors par exemple sur cette question de réversibilité du bâti, peut-être pour commencer, comment vous y prenez pour intégrer toutes ces logiques par rapport à cette complexification du projet urbain, comment vous en sortez, quoi ? Quelles solutions vous pouvez trouver ?
Je ne sais pas si on s'en sort. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle de fabrication de la ville, on a besoin, pour fabriquer une ville, ou pour la transformer, de deux ressources. On a besoin de là où on fait et de avec quoi on fait. Donc là où on fait, c'est le foncier ou le bâti existant. C'est là où on fait. Et avec quoi on fait, c'est quel matériau on utilise et quelles ressources on va les puiser pour construire. Donc c'est les deux aspects qu'il est toujours intellectuellement intéressant en fait de séparer, parce que c'est deux problématiques qui n'ont rien à voir, en fait. On parle pas des mêmes temporalités, on parle pas des mêmes sujets. Donc le premier sujet sur là où on fait, il y a un sujet foncier, économie de foncier, il y a un sujet comment est-ce qu'on fait pour réutiliser un bâtiment existant. Donc on s'est aperçu que des bâtiments existants, il y avait des bâtiments qui étaient faciles à transformer et d'autres qui étaient très difficiles à transformer. Donc sur ce sujet-là, on s'est interrogé il y a longtemps maintenant, ça fait je sais pas 7 ans, 8 ans, sur la manière de concevoir pour pouvoir permettre aux générations futures d'intervenir sur nos bâtiments qui ne seront peut-être pas encore des ruines, pour les transformer aisément. C'est une sorte de cadeau qu'on se propose de faire sur le temps long. C'est-à-dire, le temps long, c'est qu'on parle des plus de 50 ans, voire le siècle. Et voilà, c'est demain comment la société va pouvoir s'emparer de ce qui pourrait être une ressource et pas un handicap. Donc je reviendrai dessus, mais c'est un sujet sur lequel on a commencé à travailler il y a un bout de temps maintenant. Le deuxième sujet, qui est sur la question de la ressource, nous avons choisi, c'est complètement assumé à l'agence, de travailler sous l'angle du carbone sur la question de la ressource pour mesurer avec précision l'impact carbone de ce qu'on construit dans la partie acte de construire. On a pour cela développé un certain nombre d'outils. Hein, et là, ça concerne vraiment la pratique quotidienne de l'architecture. Hein, tous les logiciels Revit à l'agence ont leur icône calcul de bilan carbone instantané qui permet à l'ensemble des architectes à l'agence de pouvoir mesurer, de comparer des solutions constructives. Voilà, quelle est la solution la moins carbonée? Donc ça, c'est d'ailleurs très très concrète. On mesure ce qu'on fait désormais sur la question de la ressource. Et si je reviens sur la question de là où on fait sur la transformabilité, donc les bâtiments aujourd'hui qu'on développe, on se force dès le démarrage à s'assurer que les bâtiments soient transformables. Ça concerne autant les bâtiments de logement qu'on fait que les bâtiments industriels ou les bâtiments tertiaires. C'est imaginer quelle sera leur vie dans 50 ans, 100 ans.
Donc c'est le cycle de vie, ouais.
Donc c'est un cycle de vie qui est allongé parce que ça correspond, quand on parle de 100 ans, en fait, on est déjà plus dans les grilles d'analyse de cycle de vie. Donc c'est plutôt l'étape d'après. D'ailleurs, c'est pas pris en considération par une quelconque norme. C'est un truc bizarre, mais et là-dessus, on a vachement milité dans un certain nombre d'instances pour que le permis de construire soit systématiquement accompagné d'une note de réversibilité pour les opérations de plus de 2000 mètres carrés. Pour qu'il puisse être établi qu'un bâtiment puisse avoir un autre usage quand son usage sera obsolète. Et c'est passé dans la loi climat résilience. En fait, il y a toujours pas les décrets d'application, mais il y a quand même un article qui précise qu'il va falloir prouver la réversibilité de ce qu'on construit pour permettre au bâtiment.
Qui donnerait cette note alors ?
Donc, la municipalité dans le cadre, le maire dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire. Enfin, qui jugerait en fait de la pertinence de la note. Par contre, ce serait à l'architecte d'expliquer,
en quoi,
par une scénarisation, en quoi ce bâtiment peut se transformer facilement en quelque chose d'autre.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà dans la loi, ce qui est déjà une victoire. Par contre, il faut que le décret, les décrets d'application sortent maintenant. Mais... Donc voilà. Donc ça, c'est, je pense que c'est ce sujet-là, ce sujet est important. Ensuite, le sujet foncier qui fait partie de là où on fait. Bah là encore, alors on n'a pas toujours les mains libres. Hein, là, faut pas s'imaginer que l'architecte maîtrise tout quand même. De temps en temps, on nous donne un foncier, un programme, et voilà, et puis un règlement d'urbanisme. En fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on applique le règlement d'urbanisme, le programme et le foncier, et bah finalement notre marge de manœuvre pour économiser du foncier, elle est quasi inexistante. Donc malgré tout, dans ces cas-là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment la position du bâtiment va pouvoir limiter la nuisance, limiter son impact. Et là, on parle de vent dominant, on parle de continuité écologique, on parle de rupture des écoulements d'eau, on parle de toutes ces choses-là, parce que la considération d'un foncier est très importante, en fait, pour concevoir intelligemment un projet d'architecture, pour limiter tout simplement l'impact environnemental. Et quand on a la possibilité de compacter et d'économiser du foncier, ben je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu un réflexe pour n'importe lequel des architectes de l'agence.
Alors, vous pouvez nous illustrer, je crois que, par exemple, la gare maritime au Havre voilà, rentre dans cette logique-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter le projet ?
C'est un projet très intéressant. La gare maritime du Havre, c'est un concours qu'on a gagné il y a un peu plus d'un an maintenant, qui est en conception-réalisation, qu'on développe avec l'entreprise Legendre, qui va bientôt démarrer en chantier. Donc ça accueille des bateaux, notamment des bateaux de croisière. Donc c'est un sujet d'ailleurs qui est assez polémique. Est-ce qu'il faut construire des nouveaux bâtiments pour des croisières ? Toujours est-il qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui ont envie d'aller passer leurs vacances en fait sur un bateau. Qu'on s'aperçoit que finalement le bilan carbone d'un passager sur un navire de croisière, il est pas si mauvais que ça par rapport à un charter qui va aller en Égypte pendant une semaine. Il est même plutôt meilleur. Toujours est-il qu'on ne sait pas du tout ce que va devenir en fait cette économie de la croisière dans les 30 ans qui viennent. Peut-être que ça va s'arrêter, peut-être que ça va se développer encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. En tout cas, on ne le sait pas. Et là, ce qu'on a proposé sur ce projet, c'est que ce bâtiment puisse servir à autre chose dès maintenant, dès sa livraison, que la simple utilisation en mode terminal de croisière. C'est qu'en fait, il y a des très grands espaces qui sont très bien équipés avec des sanitaires, des cuisines, des restaurants, etc. Et que finalement, les croisières, ça fonctionne qu'un certain nombre d'heures dans la journée, voire un certain nombre de jours dans l'année. C'est qu'en hiver, il y en a quand même beaucoup moins qu'en été, etc. Et donc là, ce qu'on a proposé, c'est de dessiner un bâtiment qui puisse être à usage mixte, on va dire usage chronotopique. C'est qu'en fait, quand il n'y a pas de croisière, il puisse y avoir autre chose. Et cette autre chose, bah, qu'est-ce qui peut avoir lieu dans un grand espace de 2000, 3000 mètres carrés avec un bar, des sanitaires, etc. Bah, des concerts, des congrès, des boîtes de nuit. Non, mais en plus, c'est sur le port, donc il n'y a pas de nuisance. Donc en fait, on peut imaginer plein de choses. C'est ce qu'on propose avec un projet comme celui-ci, c'est d'essayer d'amplifier son usage et en fait le proposer à de nouveaux usages qui sont pas forcément écrits dans le programme, parce que je pense que c'était pas du tout une attente de notre maître d'ouvrage de nous voir lui proposer des usages autres, mais ça a une pertinence, ouais. ça retient l'attention de tout le monde. Bien évidemment, une salle de 3000 mètres carrés qui ne sert que, on va dire, 30% du nombre de jours dans l'année, et ben tout d'un coup on s'aperçoit qu'il peut, ça peut servir à plein d'autres trucs.
Bien sûr. Donc là, on n'est pas sur la réversibilité du bâti une fois que l'usage a, dans une période donnée, est terminé, mais on est même sur de l'intensification de l'usage, en fait.
L'intensification d'usage et de la transformation d'usage. C'est quoi? Comment il est possible, en fait, de travailler sur des espaces qui ont une agilité à répondre à des besoins qui sont pas forcément les besoins attendus, initialement.
Quel est le calendrier du projet, là?
Le chantier va démarrer début 2024 pour une livraison en 2026.
D'accord. Alors, sur le recyclage de foncier, il y a peut-être un projet intéressant aussi que vous pourriez nous raconter, c'est le projet Table Square. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Table Square est un projet assez passionnant qui a beaucoup occupé l'agence pendant des années. L'histoire de ce projet, on a commencé à travailler sur ce secteur en 2012, quand De Facto à l'époque, qui était l'ancêtre de ce qu'est PLD aujourd'hui, nous a demandé de faire un diagnostic exhaustif sur tous les volumes résiduels et inutilisés à la Défense. Il s'avère qu'à la Défense, sous la dalle, il y a plein d'espaces qui sont soit des vides de construction, soit des espaces qui ont été construits et qui ne sont plus utilisés, qui l'ont été mais qui ne le sont plus, avec une sorte de ressource d'usage qui est très présente à la Défense. Et derrière ce diagnostic, on a remporté un concours avec Link City, pour construire au cœur de la Défense 7 restaurants qui sont destinés aussi à animer la Défense qui manque un petit peu d'aménités de restaurants, etc., en utilisant les volumes résiduels. Donc tout le projet consiste à, on a quelques émergences qui sortent sur le parvis que pas mal de gens connaissent, hein, qui sont ces sortes de d'origami blanc fait de crayons qui viennent se poser comme ça le long du quai, ils viennent reconstituer une place finalement qui a une échelle très différente de l'échelle des tours. Mais le gros du projet, il est technique, c'est ça qu'on trouve toujours très intéressant. C'est, en fait, c'est tout ce qui se passe en dessous, c'est que en dessous, c'est toutes les cuisines, toute la logistique, tout le stockage donc qui est invisible depuis la dalle, mais qui permet de donner une nouvelle valeur d'usage à tout ce qui a été inutilisé depuis des décennies au sein de la Défense. Et là, c'est une manière, en fait, de donner une valeur. C'est un petit peu un démonstrateur qui est presque politique pour le coup, ouais. Qui dit voilà, il y a un moyen de faire des choses très très bien en utilisant ce qui a été laissé de côté et qui n'est plus regardé. C'est une sorte de lutte anti-gaspi, on va dire, du bâti. Et je pense que si on n'avait pas fait ces restaurants-là, en fait, on serait resté avec ces espaces vides, abandonnés en dessous, or qui sont géniaux pour une rêve, un événementiel, un défilé de mode un peu branché, etc. Mais qui n'attendent qu'une chose, en fait, c'est qu'on donne une nouvelle vie, une nouvelle valeur d'usage à ces espaces qui ont été construits. Accessoirement, c'est des espaces qui ont coûté beaucoup de carbone. Il y a certains noms, parce que c'est quand même tout ça, c'est du bon béton brut. Et il y a presque une obligation morale d'aller utiliser ce qui a été fait il y a une cinquantaine d'années à cet endroit.
C'est livré, là, ça?
Ah oui, c'est livré. On peut y aller, on peut aller y déjeuner. On y mange très bien, d'ailleurs.
Dans l'un des 7, c'est ça? Il y en a
7. Oui.
7 restants. Peut-être on peut parler de logistique urbaine, parce que la logistique urbaine, c'est quand même un vrai sujet. Enfin, la logistique, de manière générale, ça consomme beaucoup de foncier. En même temps, le dernier kilomètre, tout ça, tous ces sujets-là, sont très très importants et je crois que vous avez développé un projet autour de ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Alors, on a développé un projet, alors c'est un Inventons la métropole du Grand Paris qu'on a remporté en 2019, si je ne me trompe pas, sur la ZAC de Bercy-Charenton, donc côté Paris, juste au bord du boulevard Poniatowski, entre boulevard Poniatowski et le périphérique, qui est un hôtel de logistique urbaine trimodal, donc c'est assez intéressant parce que c'est connexion fer, connexion route et connexion future tram fret, le jour où on pourra transporter des marchandises avec le tram. Le tram, il a ce bon goût de faire le tour de Paris, donc ce qui est topologiquement un énorme moyen de redispatcher vers le centre de Paris, à l'extérieur de Paris, parce que là, on a un axe possible de parcours de marchandises qui est assez génial. Donc là, ce bâtiment, il intègre en fait ces trois modes et il intègre sur le dessus des programmes aussi divers que du bureau, du logement, du co-living, un centre sportif, une mixité absolument gigantesque qui montre qu'il est possible sur une parcelle prédéterminée de fabriquer une multiplicité d'usages et de fabriquer la densité d'une certaine manière. Donc le socle est réservé à cette sorte de nécessité pour fabriquer une croissance économique vertueuse, on va dire, si on peut le dire, comme ça. Donc c'est la partie logistique urbaine, c'est qu'en fait, bah voilà, là c'est bientôt Noël, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas commandé un truc sur Internet. Donc ça fabrique le socle. Donc ça fabrique le substrat de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est une activité qui est à la fois sociale, économique, qui va venir s'implanter par-dessus. Accessoirement, le fait de mettre de la logistique urbaine dans un socle, ça fabrique une sorte d'opportunité économique de développement de nouveaux types d'usages. Je pense notamment à l'activité productive. C'est vrai que la petite PME qui est là peut avoir un grand intérêt à venir s'implanter sur un centre de logistique urbaine parce qu'elle peut utiliser l'outil logistique pour ses propres besoins. Donc, il y a un côté assez vertueux à imaginer cette densité qu'on aurait beaucoup plus de mal à imaginer si toutes ces fonctions étaient distendues et séparées. Là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en les mettant ensemble, on réussit à fabriquer quelque chose de mieux que si elles étaient séparées. Donc c'est un assez bel exemple de densification.
Ouais. Donc densité et mixité, quoi.
C'est densité et mixité. Ouais. Bien sûr, densité juste pour la densité, là ça devient une question de rentabilité foncière. Mmh. Mais là, la mixité permet de fabriquer quelque chose de mieux. Donc on a travaillé sur ce projet. On s'est occupé toute la partie hôtel d'entreprise qui utilise l'hôtel logistique. On a fait tout l'hôtel logistique et c'est Marc Mimram, avec qui on s'entend très bien, qui s'est occupé des diverses fonctions qui viennent s'implanter sur cet hôtel logistique. Voilà, donc c'est un projet qu'on a remporté avec Sogaris, Postimo et ICAD. Il devrait voir le jour dans les prochaines années, ça prend un peu de temps. La ZAC de Bercy-Charenton a connu quelques vicissitudes.
quelques rebondissements.
Mais les choses sont, oui. euh, sont en train de se mettre d'équerre aujourd'hui. Donc on a confiance sur la sortie de ce projet.
Vous travaillez aussi à l'international. On en a parlé en tout début de podcast. Quel est justement ce rapport à la densité, ce rapport à la sobriété? Comment ça se passe à l'étranger, enfin au niveau international? Est-ce qu'il faut activer d'autres leviers ou pour le coup c'est aussi mondialisé? Ben voilà.
Alors c'est une question compliquée parce que déjà le monde, il y a plein de mondes différents. l'activité en dehors de nos frontières, c'est toujours pour les mêmes raisons, hein, de curiosité intellectuelle, je pense. Dès le début de l'agence, on s'est mis à travailler en dehors de nos frontières, où on a été confronté à des cultures qui étaient très différentes des nôtres, avec des méthodes qui étaient très différentes des nôtres, et des attentes de sociales, politiques, qui étaient très différentes des nôtres aussi. Donc c'est une gymnastique intellectuelle qui est assez exceptionnel, je dois dire, de travailler à l'étranger. J'aurais peut-être deux exemples, les plus criants. L'exemple de l'Inde, par exemple, donc dans un pays dans lequel on travaille depuis bientôt une dizaine d'années, on a une équipe même qui est installée à Delhi. On a été confronté à travailler sur de nombreux projets, essentiellement dans le domaine du transport, c'est-à-dire métro, gare ferroviaire. Et là, on s'est aperçu des erreurs qu'on pouvait faire avec nos méthodes occidentales en termes de conception, quand dans la relation notamment avec l'informalité de l'usage de l'espace public. On a fait des premiers projets en Inde, on a fait quelques erreurs où on s'est mis en fait à bloquer un peu les espaces informels simplement par l'implantation de nos bâtiments. Et en fait, ça marche pas. En fait, il faut qu'on donne la possibilité. Il y a toujours une zone tampon quand on construit en Inde entre, il y a l'espace public, l'espace de la rue et l'espace du bâtiment pour que puisse se mettre en place l'informalité. Si on le fait pas, l'informalité se met en place de toute façon. Ouais. Donc, soit elle vient empiéter sur le bâtiment, soit sur la rue, mais de toute façon, en fait, elle finit par s'implanter. Donc, ça pose des énormes problèmes d'usage, tout simplement, si on est propre à garde. Donc ça, c'était un exemple assez intéressant, mais peut-être dire un petit mot sur le sujet, notamment de la logistique urbaine en Inde. C'est un des projets de recherche à l'agence quand on a travaillé en Inde, c'est de savoir est-ce que il y aurait un moyen d'appliquer les outils de logistique urbaine qu'on développe dans nos sociétés occidentales dans des pays comme l'Inde. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle pollution dans les grandes métropoles indiennes, notamment New Delhi, que ça devient un vrai sujet de santé publique. Il y a l'espérance de vie est en train de baisser à Delhi, notamment pour des questions de pollution. C'est quand même très très préoccupant, et notamment à cause de la circulation des véhicules liés aux livraisons. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un type d'outil ou un type d'infrastructure spécifique de logistique urbaine à imaginer pour l'Inde, pour pouvoir améliorer globalement ses émissions de gaz d'échappement, tout simplement, en Inde, donc minimiser le parcours marchandise entre les zones commerciales. Donc là, Claire Bach à l'agence a travaillé pendant plusieurs mois sur le sujet. On a été bien sûr très aidé par nos équipes indiennes sur place qui sont allées faire du sondage auprès des commerçants pour voir s'il n'existait pas un nouveau modèle de logistique urbaine. Ça a donné lieu au développement de deux projets types qui pourraient être les projets de logistique urbaine, d'hôtels de logistique urbaine adaptés au contexte indien pour les implanter et pour profiter de ces nouvelles polarités de flux de marchandises, profiter de ça pour créer en fait un nouveau type d'économie également. Voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette démarche-là, on a commencé à développer cette démarche sur la base de notre connaissance française, voire parisienne, du sujet de la logistique urbaine. Très rapidement, on s'est aperçu aussi que là, on venait toucher à des problématiques sociologiques, de structures sociales très importantes. C'est qu'à partir du moment où on rationalise la logistique urbaine, il y a toute une partie de la population qui, depuis des décennies, vit grâce au transport du sac de riz de telle partie à telle partie, en fait, qu'on transformait intégralement et que ça posait de nouvelles problématiques. Donc ça nous a poussé en fait à réinterroger nos modèles pour les adapter à un contexte culturel, sociologique, qu'on a besoin de maîtriser pour venir convenablement faire notre métier dans ces pays-là.
C'est intéressant.
Alors, c'est en ça, pour revenir à votre première question,
ouais, c'est
en ça boucle. Qu'on a un métier très politique.
C'est ça, oui, oui.
Genre, ouais, on peut avoir la meilleure idée du monde.
Bien sûr.
Et c'est vrai que l'étude qu'on avait fait démontrait que on pouvait baisser de 40% les émissions de gaz d'échappement en rationalisant la logistique urbaine. Donc c'est énorme, 40%. Mais pour autant, il y avait également le risque de casser complètement une structure sociale qui permet à tout le monde de manger à peu près à sa faim en Inde. Voilà. J'ai à peu près à sa faim parce que peut-être qu'il faut aussi réinventer la structure sociale indienne, ça c'est une autre question. Mais ouais. Donc voilà le type d'enseignement qu'on a de l'étranger. Appliquer des recettes de la France, ça marche pas. Ce qui est sûr, c'est que les interrogations que ça pose quand on travaille dans ces territoires nous font complètement réinterroger toutes les idées reçues qu'on peut avoir, y compris sur nos territoires français.
Mmh. Oui, c'est ça, exactement. En fait, vous appliquez cette agilité intellectuelle, y compris après sur du territoire français.
Donc c'est en ça que voilà, c'est absolument. Après, je pourrais parler de l'Afrique également. Là, les projets qu'on développe en Afrique, et notamment celui qu'on développe en ce moment, qui est en cours d'étude, qui a d'ailleurs démarré en chantier en VRD, qui est un modèle d'hôpital qu'on a développé pour la Guinée-Conakry. Donc ça aussi, c'est issu d'un projet de recherche qu'on avait développé il y a quelques années et qui a donné lieu à ce projet très concret, qui est un hôpital modulaire qui est en mesure de s'adapter aux évolutions démographiques qui sont extrêmement rapides en Afrique et s'adapter également aux problématiques de santé publique qui changent également très très vite en Afrique. Tout le monde a entendu parler d'Ebola, le type de virus. En fait, il y a des périodes en Afrique dans lesquelles, en fait, il peut y avoir des problématiques de santé qui, tout d'un coup, deviennent le sujet de santé publique et qui disparaît au bout d'un an, puis qui revient après. Et en fait, donc, les structures hospitalières ont besoin de se transformer à une vitesse folle, ce que connaissent pas du tout nos hôpitaux en France. On a vu d'ailleurs à quel point c'était compliqué dans nos hôpitaux en France de s'adapter avec une crise du Covid, où tout d'un coup, il fallait transformer des salles d'accouchement en salles de réanimation pour patients atteints du Covid, etc. En tout cas, tout le projet qu'on développe là en Afrique, c'est appelé hôpital modulaire évolutif, c'est qu'il est fait pour pouvoir se transformer très aisément en fonction de ces crises sanitaires et de pouvoir grandir ou rapetisser en fonction des besoins démographiques localement.
Et comment ça se traduit concrètement du coup ?
Alors ça se traduit par une structure complètement au rez-de-chaussée, avec des systèmes de pavillons qui sont capables de s'étendre ou de se rétracter, avec chaque pavillon qui peut changer d'usage. Donc il peut être également préfabriqué, mais c'était pas le sujet majeur de la recherche. Le sujet majeur de la recherche, c'est plutôt de réfléchir à une sorte de typologie d'espace pour un hôpital, adapté aux problématiques de maintenance qui existent dans les parties éloignées d'Afrique, et qui soit capable enfin de grandir dans toutes les directions. Ça peut être la partie maternité qui augmente, ou la partie infectiologie, la partie psychiatrie, etc., pour que ça puisse se développer. Je suis en train de faire des gestes avec ma main, c'est dommage, on est sur un podcast, on voit pas les gestes avec les mains. Mais...
Je vais me mettre à la vidéo, ça, voilà. C'est impératif. C'est passionnant, en tout cas. Est-ce que on va évidemment s'acheminer vers la fin de ce podcast. Est-ce que pour conclure, vous pouvez nous donner un peu quelques infos sur les sujets que vous allez porter dans les quelques années, les projets que vous avez en tête de développer, la feuille de route quoi, d'Enya Architecte pour les quelques années qui arrivent.
Alors, ce serait bien si on avait une feuille de route. Non, on n'a pas de feuille de route. Après, je pense que la manière dont on fonctionne, notamment grâce à la recherche, etc., j'ai l'impression qu'on embrasse à l'agence les problématiques actuelles qui, en tout cas, interroge un petit peu tout le monde. On a remporté il y a à peu près un an un accord cadre pour la rénovation de l'enveloppe de tous les campus universitaires de Rennes, qui sont des très beaux bâtiments qui ont été construits par Louis Aretsch dans les années la fin des années 60. Une très belle architecture, mais qui aujourd'hui est complètement obsolète en termes de performance énergétique. Et on a travaillé sur un système d'industrialisation, de retransformation de ces bâtiments, qui est absolument intéressant, absolument passionnant intellectuellement, parce que on finit par réappliquer plus de 50 ans plus tard quelles avaient été les méthodes de construction de ces mêmes bâtiments, où il fallait aller construire des universités en urgence parce que baby boom, croissance démographique, donc on industrialise, et aujourd'hui on a une urgence climatique, il faut qu'on trouve une manière d'industrialiser pour pouvoir suivre la cadence de l'enjeu de l'urgence climatique. Et on réussit actuellement à faire des projets qui sont, je trouve, très intéressants, purement architecturalement parlant. Et ça, c'est une piste de développement pour l'agence qui est très intéressante. Parce qu'elle interroge plein de choses. Elle interroge le patrimoine du XXe siècle, sa valeur. Elle interroge notre capacité, nous, architectes, à construire en hors-site ou à concevoir pour construire en hors-site. Elle interroge la manière dont les puissances publiques exploitent leur parc immobilier. Ça interroge comment un propriétaire de 150 bâtiments va hiérarchiser, c'est-à-dire je commence à réhabiliter d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc comment on objectif tout ça? Comment on fabrique la métrique nécessaire pour prendre ces bonnes décisions? Donc c'est des projets qui intègrent finalement un petit peu tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait courir. Et ça, je pense que ça va être des, voilà, ça va être en termes de développement pour l'agence des projets très intéressants sur lesquels on va se concentrer.
Bah écoutez, je vous remercie énormément pour cet échange qui était absolument passionnant. Brice, je vais regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention quels sont vos projets à l'avenir. Et j'espère avoir le plaisir de vous réinterviewer au cours de projets innovants que vous porterez. Merci Brice.
Merci Fanny, c'est un plaisir.
À très bientôt.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, citizan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.